le Seigneur m'a donné ces paroles prophétiques hier. Et voici les paroles du Seigneur que le Seigneur adresse, nous adresse, peuple de Dieu, ici présent. Et tous ceux qui entendront ce message aussi. Le temps est venu, peuple de Dieu, où il est urgent pour toi de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Bientôt, le Fils de l'homme, le Seigneur de gloire, reviendra sur les nuées du ciel. Bientôt, la trompette sonnera. Et vous tous qui avez lavé votre cœur dans le sang de l'agneau, vous serez attirés à lui. Que chacun d'entre vous veille donc à l'état de sa robe. Que chacun approvisionne sa lampe d'huile et soit rempli de mon esprit. Entretenez avec moi une communion ininterrompue, constante et régulière, dit le Seigneur. Et voici d'autres paroles encore bien encourageantes pour nous qui sommes encore sur la terre. Le Seigneur dit, mon peuple, bientôt ton pèlerinage sur cette terre prendra fin. Et tu seras transporté dans ce lieu plein de gloire, de paix et de lumière, appelé le ciel. Tu quitteras cette terre devenue un désert aride pour toi. Et quel désert, n'est-ce pas? De plus en plus. C'est vraiment le désert. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai. Et nous quitterons cette terre devenue un désert aride pour nous. Lève tes yeux, mon peuple. L'heure de la rédemption approche. Alors voici ces paroles merveilleuses. Que ceux d'entre vous qui sont découragés, ne comprenant pas où les épreuves qu'ils traversent les amènent, lève les yeux. Faites-moi confiance, dit le Seigneur. Si le chemin est aride, le chemin que j'ai tracé pour vous, je l'ai tracé, dit le Seigneur, parce que j'en connais l'aboutissement, le but. Je sais tout ce qui vous concerne et je sais exactement ce qu'il vous faut pour que vous parveniez au but que j'ai fixé pour chacun d'entre vous. J'ai promis que si vous marchez par le feu, vous ne vous brûlerez pas. C'est ce que nous sommes appelés à vivre maintenant dans ces temps. Et ce passage d'Isaïe 43 qui vient compléter ces paroles, ne crains rien. Toi que j'ai appelé par mon nom, par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, dit le Seigneur. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, peuple de Dieu, mon peuple, dit le Seigneur. Ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia, Seigneur. Oh, nous ne pouvons qu'applaudir cela. Merci, Seigneur, tu es avec nous dans ce désert aride. Jusqu'à ton retour, nous n'avons rien à craindre. Tu prendras soin de nous. Et puis, ça s'adresse, cette parole s'adresse à ceux qui sont découragés à cause de l'aridité, à cause des épreuves qu'ils traversent. Ils ne savent pas où ça va les conduire. Faites confiance. Le Seigneur sait où il vous mène. Vous êtes dans sa main. Alors pourquoi craindre? Alléluia. Maintenant, une deuxième parole. Que ceux d'entre vous qui voient leur force décliner pendant la marche et qui craignent de ne pas atteindre le but ou de tomber en défaillance sur la route, sur le chemin, pendant la marche, ne comptez pas sur vos propres forces, mais sur ma force toute puissante qui vous portera jusqu'à la porte des cieux. Alléluia, Seigneur. Si vous restez ferme, attaché à moi et à ma parole, ne suis-je pas celui qui augmente la vigueur de celui qui est fatigué? Pour celui qui marche dans mes voies, ses forces lui seront renouvelées par ma force toute puissante pendant la marche. Alléluia, Seigneur. Nous faisons partie d'une ou de l'autre de ces catégories, Seigneur, de toute manière, les uns et les autres. Et Seigneur, tu viens ce matin nous encourager. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ces paroles bienfaisantes qui apaisent nos esprits agités, anxieux à cause des circonstances de ce monde, troublés, déchus, perdus, pervertis. Il y a tous les noms qu'on peut attribuer à ce monde actuel et qui sont la réalité. Alléluia. Le Seigneur est le Dieu de la vie et non de la mort. Et nous l'avons vu plusieurs fois. Et l'année dernière, j'avais parlé d'une femme miraculée au Burkina Faso qui, que le Seigneur, sur son lit de mort, était venu relever. Elle sentait la mort. Elle était paralysée, aveugle, enfin tout. Il y a eu une parole de connaissance qui a été donnée à des kilomètres de là. Et le Seigneur est venu dans sa maison à des kilomètres de là. La puissance de Dieu, au moment où cette parole a été donnée, est venue sur elle et l'a traversée de part en part. Elle qui était paralysée sur son lit, elle s'est levée. Elle a couru dehors. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'était la femme d'un pasteur.
Amen.
Elle a été libérée des liens de la mort.
Amen.
Parce que Dieu est un Dieu de vie. Et de mort. Moi-même, j'ai expérimenté cela aussi, j'en ai parlé, je pense, par ici, déjà. Quand j'avais 27 ans, ça fait un moment de ça, quand nous étions missionnaires en Afrique, j'étais mourante et je devais partir. Ou à un moment donné, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je vais te guérir. La puissance de Dieu est venue arrêter ce processus de mort. J'avais deux bébés, un mari, deux bébés. Et la puissance de Dieu m'a traversée. Moi qui ne pouvais plus marcher, qui ne pouvais plus rien manger depuis 10 jours, j'avais une hépatite virale et une crise de paludisme aiguë. Et j'étais mourante à 27 ans. Et le Seigneur est venu par sa puissance arrêter le processus de la mort en moi. Et si je vis, moi aussi je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Amen, amen.
Aujourd'hui encore, des années après, 35, 37 ans après. Et ici au Canada, le Seigneur m'avait donné une parole de connaissance à Gatineau, dans une église. Et j'avais dit, quelqu'un est atteint d'une grave maladie, une grave décalcification des os. Et c'était plus grave que seulement une décalcification des os, je vous dirais. Parce qu'il s'agissait d'une femme qui était restée à la maison. Son fils était à la réunion. Et après la réunion, son fils est venu me voir et m'a dit, les paroles que vous avez dites, c'est exactement ma maman. Elle est à la maison. Elle va mourir. Elle a le cancer des os. Et au moment où cette parole a été donnée dans l'église, cette dame à la maison, elle a été visitée par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est venue à la maison chez elle, là-bas. Le fils, qui était à la réunion avec nous, il est rentré à la maison. Il a trouvé sa maman debout. Elle était mourante dans son lit. Il l'a trouvée debout. Debout. Et puis, 3 jours après, elle mourait du cancer des os. Hein. C'est très, très douloureux comme cancer. C'est affreux. Et 3 jours après, elle faisait ses courses dans les magasins. Et 3 semaines après, elle faisait ses boîtes pour son déménagement. À 74 ans, s'il vous plaît. Alléluia! Le Seigneur est grand. Il est le Dieu de la vie et non de la mort.
Amen.
Et je crois qu'il a aussi posé sa main sur Lynn là-bas. aussi.
Amen.
Non ?
Oui.
Gloire à Dieu. Hein ? C'était l'année dernière ?
Oui.
Voilà. Et le Seigneur a aussi a aussi arrêté un certain processus. Parce que tu as l'air de bien aller cette année. Hein ?
Oui.
Ça va toujours bien ?
Oui, ça va.
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur n'a pas fini de nous étonner. Il est le Dieu vivant. Il connaît chacune des cellules de notre corps. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il est là. Il est le grand médecin, professeur des professeurs. C'est lui qui nous a créés. Alors il sait mieux que même les professeurs de ce monde, certainement. Ce qui ne va pas en nous, faisons-lui confiance. Remettons nos vies entre les mains de celui qui est tout puissant et que rien n'arrête. Et qui a pouvoir. Oui. Oui, oui, ben viens, alors, viens là peut-être, s'il te plaît.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Excusez un peu la nervosité, mais ça fait 3 ans à peu près que j'assistais au séminaire comme ça, que j'ai connu Samuel et Dorothée, Jean-Marie, Françoise, puis je lisais leurs brochures, tout ça, puis à un moment donné, ça m'a mis une espérance en moi, ça a ouvert des portes pour ma foi. Puis, curieusement, la première année que je les ai rencontrés, j'avais aucun cancer. J'y connaissais, j'aimais ce qu'ils enseignaient. Ça m'a aidé beaucoup à marcher vraiment avec le Seigneur. Puis, une année après, c'est écoulé. Là, le diagnostic est tombé. C'est un cancer du sein, mais qui était rendu.
Et le Seigneur, un jour.
Voilà. Et quand on a compris ça, alors il n'y a plus de problème de pardon,
ah,
finalement.
Oui. Mais non.
Ou de non-pardon. Il n'y a plus de problème de non-pardon.
Non.
C'est clair, net. Est-ce que c'est clair, là?
Ah oui, bah oui.
Tu as vu? Et puis les textes, c'est ça. Ils font
c'est comme ça que je l'ai compris, que j'ai vécu.
Et comme ça, c'est écrit.
Bien sûr.
Mais tu vois, le fait de Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses », comme nous avons déjà pardonné. C'est le texte grec, ça. C'est ce que Jésus dit. Parce que les nôtres, c'est comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pas assez clair. Comme pour dire, bon ben, pardonne-moi, puis moi, quand j'y penserai,
je
pardonnerai à l'autre. Quand l'autre viendra me demander pardon, je pardonnerai. On pose des conditions, mais on pense que le plus important, c'est que Dieu nous pardonne. Mais que notre attitude par rapport à l'autre n'est pas importante. Alors que Jésus dit, c'est le contraire. La phrase dans le texte grec, c'est le contraire. Comme, Seigneur, j'ai pardonné déjà à celui qui m'a offensé, alors pardonne-moi. Effectivement, Dieu te pardonnera, puisque tu as déjà pardonné. Tu vois ? Et tandis que là, on comprend tout de travers. Pardonne-moi, et comme je pardonne, bon, ben, je pardonne, oui, ben, on attend.
On n'a pas demandé pardon. Je pardonne s'il me demande pardon.
Et voilà, des trucs. On met les conditions, et puis c'est comme ça que.
Il n'y a pas de conditions.
Voilà.
Si on ne pardonne pas, on est les plus malheureux des hommes. Les plus malheureux des hommes.
Et ça, il n'y a pas de. C'est la.
Faut jamais.
C'est la clé même de la. Du pardon divin. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Ça, c'est le cœur, ça. Ah oui, mais j'attends. T'attends quoi? Dieu, comment Dieu t'a pardonné?
Ah, oui. Mais s'il avait attendu comme lui demande pardon, chaque fois qu'on pêche, qu'on s'en rend pas.
Alors.
Oui, en plus. On reste pêcheur encore. On est gracié, c'est vrai, mais nos péchés ont été lavés. Mais il nous arrive encore de pêcher, on n'est pas des saints encore.
Non.
On n'est pas saints comme le Seigneur, je veux dire.
Oui, et puis c'est pas seulement ça, c'est aussi l'immensité de notre, de notre péché.
Ah oui.
Ah oui.
Bah oui.
Comment Dieu t'a pardonné? Ah oui, il m'a pardonné. À les entendre, on a l'impression que Dieu leur a pardonné sans denier. Rien du tout. Celui à qui on pardonne peu, il aime peu, c'est écrit. Si on pense que Dieu nous a peu pardonné, on l'aimera peu.
Voilà.
C'est la femme pécheresse aussi, là, dans les évangiles aussi. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, il aimera beaucoup. Tu vois? Ça, c'est aussi une vérité importante, ça, à cet égard.
Oui.
Comment, oui, ah, mais je sais pas. Et, tu te rends compte? Ah, tu te rends compte de quoi? Tout comment Dieu t'a pardonné d'abord? Comment? Ah oui, mais moi, oui, c'est pas 100 deniers que tu dois à Dieu. C'est 10 000 talents. C'est une somme énorme. Et si tu lui as demandé pardon, c'est cette somme-là qu'il t'a pardonné. Il t'a fait grâce, autrement dit. Tu as une grâce extraordinaire que tu ne méritais pas. Tu dois faire la même chose avec lui. Il n'a pas mérité ton pardon. Si l'autre mérite ton pardon, c'est plus le vôtre. C'est plus un pardon. Le pardon se fait par don. On le donne par don. C'est un don qu'on offre. Enfin, voilà.
Et puis, on doit encore, en tant que chrétien, toujours demander pardon à Dieu. Tous les jours. Sinon, on accumule une dette encore non réglée. Il faut tous les jours demander au Seigneur de nous laver de tout péché, toute impureté, parce qu'il nous arrive encore de pécher. Alors, si... En plus de ce qu'on pêche nous-mêmes devant Dieu, on n'accorde pas le pardon aux autres, eh ben alors là, la dette, elle se multiplie à l'infini. Parce que tu ne règles pas tes problèmes. C'est grave pour toi. C'est grave pour toi. Non, on ne peut pas rester comme ça.
Et on voit la progression dans le mal après.
Ah oui, t'as vu.
D'abord l'amertume.
Ah ben, l'amertume, l'animosité, la colère.
Clamor,
les méchantes œuvres.
Calomnie. Et toutes sortes de méchanceté.
D'imméchanceté.
Ça va loin. Et n'attristez pas le Saint-Esprit.
Oui, oui,
tout ça attriste le Saint-Esprit. Oh, là, alors si on ne le fait pas, finalement, ceux qui ne pardonnent pas, comme Dieu pardonne, comme Dieu leur a pardonné, eh bien, ils deviennent des serviteurs impitoyables. Mm-hmm. Et un serviteur impitoyable, Dieu le met en prison.
Oui, c'est ça.
S'il ne refuse de pardonner aux autres, Dieu refusera de lui pardonner.
C'est très
grave. C'est ce qui est en train de se passer. Il est en train de fabriquer des serviteurs impitoyables.
Oui, voilà.
Bon. Et qu'on met en prison.
Oui.
Et qui sont en prison.
Oui.
Et voilà. Ils sont en prison. Eux-mêmes, ils se mettent en prison eux-mêmes à cause de leur entêtement.
De l'amertume qu'ils gardent,
qu'ils gardent
les uns et les autres.
Pas réaliser le péché, le pardon.
Le pardon,
oui.
Voilà,
oui, oui.
Tel que
de
Dieu.
Réaliser le pardon tel que... de Dieu.
Oui, le pardon.
Réaliser le pardon de Dieu, mais...
Ah oui, on n'a plus de peine après. Sans denier, c'est rien du tout. Sans denier, c'est rien. Tu voulais voir autre chose aussi?
Autre chose, c'était au sujet de Torben, on va prendre ça aussi.
Tu m'avais dit là...
Oui, il faudrait qu'on aborde maintenant un autre sujet, qui est le sujet de... d'un nouvel évangéliste, entre guillemets, disons, qui s'appelle Torben et qui vient du Danemark et qui annonce un autre évangile.
Dont le nom est...
Torben Sondergaard, il s'appelle, du Danemark.
C'est un nouveau mouvement, en somme, qui s'appelle aussi... The Last Reformation, c'est-à-dire la dernière réformation. Et alors beaucoup sont un peu pris là-dedans, parce qu'apparemment il aurait des miracles, il va dans les rues, il prie pour les malades, certains, enfin il y a des guérisons et tout, et beaucoup de chrétiens sont pris, sont impressionnés, il dit voilà, c'est ce qui nous manque, il nous faut des guérisons, aller dans les rues et puis prier pour les malades. Ça, c'est... Alors, cet homme-là, il impressionne beaucoup et il commence à ouvrir des centres dans différents pays. Et il prêche comme ça dans différents pays. Et alors, celui qui court après le miracle, pour le miracle, il se fait avoir à tous les coups. C'est un véritable piège. Parce que là, la Bible aussi nous parle de miracles mensongers, de miracles qui sont comme un jugement de Dieu. C'est pour ça que on ne doit pas être impressionné par les miracles et savoir plutôt quel est le message de cette personne. Parce que même en Égypte, avec Moïse, tu as vu à un moment donné les
magiciens, magiciens faire autant de miracles que Moïse.
Que Moïse,
Les mêmes.
Les mêmes, jusqu'à un point où ils ne pouvaient pas faire. Mais oui. Ils ont pu faire la même chose.
Beaucoup de miracles, ils
donc,
ont pu faire aussi.
Ça impressionne, mm-hmm. Et beaucoup sont pris là-dedans. Mm-hmm. Et alors, avec ce Torben-là, qui est un Danois, et beaucoup pensent que voilà, ben maintenant c'est ce qu'il nous faut. Et parce qu'ils voient des miracles, ils ne s'intéressent pas à sa doctrine.
Voilà.
Ou s'il a une doctrine, il ne cherche pas à voir si c'est la saine doctrine, si vraiment il prêche fidèlement la parole de Dieu.
Mais alors moi je voudrais ajouter ceci, parce que par rapport aux personnes avec lesquelles je parle, et quand on parle de miracles...
Et le Seigneur, un jour...
Il y en a beaucoup, des chrétiens, qui disent, quand on parle de miracles... Ça vient forcément de Dieu. Ils ne savent pas qu'il existe dans la parole de Dieu des miracles mensongers du diable, que le diable aussi peut faire des miracles. Ils en sont absolument inconscients et ignorants, alors que la Bible en parle. Alors, ça serait bien de voir dans Deutéronome comment ce qu'il arrive avec ces miracles mensongers.
Oui, on peut voir directement ce passage.
Oui, c'est bien, c'est ça. Ça coupe tout de suite court au miracle du diable, au miracle mensonger, en fait.
Au miracle, quel qu'il soit.
C'est pour ça que tu disais, tous ceux qui courent après les miracles, ils se font prendre par ça, parce qu'ils pensent que tout miracle vient forcément de Dieu, et ce n'est pas le cas. Alors, il faut voir.
Disons, comme on m'a dit, vu qu'on ne peut pas faire des miracles mensongers en priant au nom de Dieu.
Voilà ce qu'on m'a dit.
Mais au nom de Dieu ou de Jésus, il prie, il parle au nom de Jésus. Mais Dieu, ça peut être n'importe qui. Les hindous ont des dieux, les musulmans ont un dieu,
les bouddhistes ont un dieu.
Donc Dieu, ça veut rien dire.
Non, voilà, c'est ça.
Et même quand on parle même de Jésus, au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que c'est le vrai Jésus de la Bible.
Qui répond.
Dans certains milieux, leur Jésus, c'est un Jésus qui est né de nouveau en enfer. Avec Kenneth Hagin, Joyce Meyer et tout ça. Alors quand ils font des miracles au nom de Jésus, quel Jésus? Un Jésus qui est né de nouveau en enfer?
C'est ce qu'il dit.
Alors donc, voyez-vous, tu vois, donc c'est... Il y a des choses qu'il faut gratter davantage.
Ah, oui.
C'est pas parce qu'on parle de Dieu ou de Jésus que c'est vraiment celui de la Bible.
C'est ça.
Oui, puis il vient dire, n'avons-nous pas chassé des
démons en ton nom?
N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom?
Voilà.
Donc c'est bien écrit dans la Bible. Et
ben voilà.
Au nom de Jésus, au nom de Dieu, on peut faire des miracles.
Des
on peut
miracles.
Chasser des démons. Et il dit, je ne vous connaîtrai pas, retirez-vous de moi.
Voilà.
Et donc
exactement.
Ces miracles-là ne viennent pas de Jésus, de notre Jésus, de Jésus de la Bible.
Oui.
Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on prêche un autre évangile, on prêche un autre Jésus. Et donc il y a d'autres miracles. Qui ne viennent pas de Jésus. Eh oui, c'est ça.
Regarde, tu vois, juste pour confirmer ce que tu dis, c'est dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 21 et 22. Vas-y.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Voilà, Dieu, tu vois, au nom de Dieu, Seigneur, par-ci, par-là.
Et voilà.
Mais
voilà.
Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père,
important.
Qui est dans les cieux.
La volonté, la doctrine, c'est important. Après.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Alors là, c'est important de connaître le sens du mot iniquité.
Mmh.
Iniquité, c'est sans loi. Inique. Quelqu'un d'inique, c'est quelqu'un qui est sans loi. Mmh. Autrement dit, vous qui commettez l'iniquité, ça veut dire vous qui négligez la parole de Dieu. Vous qui mettez de côté la parole de Dieu. C'est bien ce qu'il avait dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas la volonté de mon Père? Tu vois, tout se tient.
Alors, ici...
Ils ont des miracles, mais en mettant la parole de Dieu de côté.
Mm-hmm.
Ou la saine doctrine de côté. Voilà, si on veut. La saine doctrine de côté. Et Dieu n'est... Jésus n'est pas d'accord avec ça.
Et ce qu'il y a avec ce monsieur Torben...
La saine doctrine, oui, il faut parler de saine doctrine. De côté.
Et ce qu'il y a avec ce Torben, c'est qu'il ne fait pas seulement un ou deux miracles, il en a beaucoup. Et c'est ce qui trompe tout le monde. Et là, il est dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles dans ce passage-là? Beaucoup de miracles, pas juste un ou deux, pour impressionner.
Donc non, ici,
non, il en a.
Ici, je ne vous ai jamais connu, vous retirez-vous de moi, vous tous qui courez. Donc, pourquoi Jésus, il n'est pas d'accord avec ça? Parce qu'ils ont mis de côté sa parole. Voilà. Au début, il est dit, ne faites-vous pas, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas la volonté de mon Père. Toi, il revient toujours à l'obéissance à sa parole, à la saine doctrine. Et il veut dire par là que certains peuvent faire des miracles sans obéir à la saine doctrine. Voilà. Et il leur dit, ben, moi, ceux-là, un jour, je ne les reconnaîtrai plus.
Ils ont mis de côté sa parole.
Ouais. Eh bien, Dieu les mettra de côté un jour aussi.
Ils n'ont pas... ils ne font pas la volonté.
Voilà.
De Dieu, c'est ça?
Oui, la volonté de Dieu dans sa parole. La volonté.
Révélée dans sa parole.
Ils ont mis de côté sa parole et ils ne font pas la volonté de Dieu.
Ils ne font pas. Ils ont mis de côté sa parole.
Ils ne font
donc,
pas.
Ils ne font donc pas.
Ils ne font donc pas donc la volonté pas. De Dieu.
Voilà. Alors.
Ou n'obéissent pas, en fait, à la doctrine biblique.
Oui, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu.
À la parole de Dieu, ils n'obéissent pas. Ils ont une autre doctrine.
Oui, non, mais si nous mettons... si nous mettons la parole de Dieu de côté, Dieu, lui, nous mettra aussi de côté. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Si nous mettons... un jour lui-même nous mettra de côté.
Et en mettant la parole de Dieu de côté, on met la saine doctrine de côté.
Ben c'est la saine doctrine qu'on met chaque fois. Quand on dit parole de Dieu, c'est saine doctrine. C'est tout la
vérité. Quand moi, ceux qui ont vu me disent, j'ai regardé, j'ai vu... Et je ne vois rien d'antibiblique là-dedans.
Mais oui, c'est ça. Alors,
d'antibiblique, justement.
Alors là, il y a des choses à relever.
Là, on parle un peu des généralités.
Oui, mais c'est ça. Voilà. Entrer dans le détail, là, de ce qu'il annonce.
Donc, le
alors, pour montrer maintenant qu'on peut avoir des miracles, et puis avoir la désapprobation de Dieu.
Ah oui. Voilà, c'est ça. Alors là, des miracles.
Et avoir la
désapprobation.
Ah oui.
Voilà. Alors, référence Deutéronome 13.
Oui, ça c'est
13, important. 1 à 5. Verset 1 à 5. Et il a construit sa maison, ça a été très vite, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas creusé. Il n'y a pas de fondation. Il n'a pas creusé. Alors c'était. Donc ça a vite été. Donc ce qu'il recherche, c'est une foi. Des bénédictions. Autrement dit, c'est un chrétien qui ne veut qu'être béni, mais lui. Obéir, changer de vie et faire ce que le Seigneur lui demande, ça,
Il n'en est pas question. Et aujourd'hui encore, que de chrétiens sont comme cet insensé. Une fois, on veut des bénédictions, mais on ne veut pas en payer le prix. On ne veut pas. On bâtit sans avoir des fondations à notre foi. Et c'est là la tragédie. Une vie chrétienne facile, ça n'existe pas. Mais si nous sommes prêts à vivre la vraie vie chrétienne, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous permettra de remporter toutes les victoires. Alléluia! Et nous irons jusqu'au bout avec le Seigneur. Refusez cette vie facile, cette foi facile, où on ne court qu'après les bénédictions. Mais dès qu'on entend quelque chose qui nous demande un effort, une obéissance, demander pardon, s'excuser, il n'y a plus personne. On disparaît de la circulation. On veut être béni, mais il ne faut rien nous demander. Surtout rien. Non, doucement. Les sacrifices, c'est pour les autres. Mais moi, c'est les bénédictions, moi. C'est tout ce que je veux. Une foi facile. C'est le saint insensé qui était comme ça. Il a bâti sa maison. Ah oui, tout de suite. Voyez-vous, il veut tout de suite. Et aujourd'hui encore, on est des chrétiens presse-boutons, n'est-ce pas vrai? On appuie, il faut que ça marche tout de suite. On a prié, il faut que ça marche tout de suite. On a fait quelque chose, il faut que ça marche tout de suite. Nous sommes pressés, mais Dieu, lui, n'est jamais pressé. Il fera son œuvre en nous, dans la mesure où nous sommes prêts à avoir des fondations à notre foi et à marcher avec lui coûte que coûte. Amen. On vous serez haïs de tous. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Le disciple n'est pas plus que son maître. Tout cela, beaucoup de chrétiens l'ont oublié. Pour eux, c'est quelque chose qui les dépasse. Pour la vie chrétienne, c'est simplement être béni et bâtir des maisons. Ah oui, vous avez bâti beaucoup de maisons, mais sur le sable, tout va s'écrouler un jour. Alors, quand on peut bâtir des maisons sur le sable, on peut en bâtir beaucoup, vous êtes d'accord avec moi? Mais un jour, il y aura le jour de l'épreuve. Il y a le jour du test. La tempête, le vent, l'épreuve, l'adversité va révéler la qualité de votre foi. Et là, grande a été la ruine, parce que ce n'est pas fondé sur le roc. Tout ce qui n'est pas fondé sur le roc de la parole de Dieu ne tiendra pas. Et une autre, j'ai noté aussi un autre point, c'était une foi superstitieuse. Il y a un peu de superstition aussi dans la foi de certains. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en mettant, en bâtissant sa maison sur le sable comme ça, eh bien, ça tiendra quand même. Alors que le simple raisonnement nous fait croire le contraire, vous êtes d'accord avec moi? Si on raisonne un petit peu, on fait attention. Mais non, le chrétien superstitieux dit non, malgré ça. Si on me touche, si je fais ceci, si je fais cela. Et tout est superstition un petit peu. Tout est des gestes magiques. Voyez, et l'autre m'a touché. L'autre, voilà, j'ai fait ceci. Mais c'est une foi superstitieuse, sans obéissance. On est prêt à croire n'importe quoi, mais sans obéir. Il était prêt à croire que sa maison allait tenir. Mais il fallait beaucoup de foi, vous êtes d'accord avec moi? C'était pas de la foi, c'était de la folie. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont comme cet insensé. Une foi superstitieuse, sans obéissance. Et on veut toujours être béni, mais obéir, jamais. C'est toujours les autres qui doivent obéir. Toujours les autres, mais soi-même, non. Et ça ne marche pas. C'est bâtir sa maison sur le sable. Amen. Combien de chrétiens ont une foi ainsi? Facile, superstitieuse, aveugle. Et après, ils sont étonnés que lorsque la tempête arrive, lorsque le vent souffle, il n'y a rien qui tient. Et que de vie chrétienne sont comme un fiasco. Un fiasco. Peut-être qu'il y a au milieu de nous des vies en ruine. Eh bien, parce que, pourquoi? Ta vie est-elle en ruine? Parce que tu as bâti sur le sable, sur tes propres raisonnements. Et comment s'en sortir? Eh bien, il faut faire comme le sage. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, juste brièvement? Si quelqu'un bâtit sa maison sur le roc, Jésus a dit, c'est celui qui vient à moi, entend ma parole de, et la met en
pratique.
Voilà. Comment changer d'attitude d'insensé à une attitude de sage? Eh bien voilà, ces trois pensées sont là. Le sage, c'est celui qui vient à moi. Il faut venir à Jésus. C'est Jésus qui est la source et la réponse à tous tes problèmes. Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le problème avec ces chrétiens insensés, fous, c'est qu'ils vont toujours auprès de l'homme. C'est l'homme, ils regardent à l'homme. Oh, celui-là, il a un ministère mondial, c'est extraordinaire, il crie fort, ça va marcher avec lui. Et c'est comme ça. Et on est impressionné par tout cela, par les titres. Impressionné! Quand il est tout... ça tombe par terre, ça se roule. Oh là là, ça c'est extraordinaire! Et on est impressionné! Mais où est-ce que les apôtres ont fait ça? Il n'y a rien du tout. Ah, mais ça ne fait rien. Vous voyez où? On est insensé. Mais la parole, est-ce que la parole de Dieu le dit? Ah non, non, ça ne fait rien. Vous voyez, on commence à croire n'importe quoi. Ouais. Si quelqu'un veut être sage, il doit venir à Jésus. D'abord, ta communion personnelle avec le Seigneur. Jésus doit être ton sauveur. Jésus doit être ton Seigneur. C'est à lui que tu dois venir. Lui ne te décevra jamais. Jamais, jamais. Tu es peut-être venu à une religion, tu es venu à un homme, tu es venu à un mouvement, mais tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus le Sauveur. C'est ce que tu dois avoir. Une relation personnelle. Accepter Jésus comme ton Sauveur et ensuite le Seigneur de ta vie, auquel tu dis, à partir de maintenant, je fais plus ce que je veux. À partir de ce moment-là, tu ne courras plus à gauche ni à droite, mes amis. Jésus te suffira pleinement. Tu seras étonné. Alléluia. Venir à Jésus et entendre mes paroles. L'insensé, Jésus a dit, il écoute mes paroles, mais il ne les met pas en pratique. En fait, l'insensé, lui, il vient, il écoute la parole, mais il a tout compris de travers. C'est pas lui qui doit écouter Jésus, c'est Jésus qui doit l'écouter. C'est tout à l'envers. Alors, Jésus, tu dois faire ceci. Jésus, tu dois faire cela. Jésus, tu dois faire ceci. Il doit être tout à l'envers avec l'insensé. Alors que la parole de Dieu dit, si quelqu'un vient à moi et entend mes paroles, écoutez. Mais il n'a pas le temps. C'est Jésus qui doit l'écouter. Dire n'importe quoi et demander n'importe quoi. Et comme le Seigneur ne répond pas à ce n'importe quoi, ils sont déçus. Et ils vont ailleurs, jusqu'à ce que leur propre volonté se fasse. L'insensé, c'est celui qui n'écoute pas la parole, mais c'est Jésus qui doit toujours l'écouter. Autrement dit, c'est quelqu'un qui ne met pas la parole en pratique. Tout se résume à cela. Mes amis, la vraie foi, c'est celle qui dit, Seigneur, je veux obéir à ce que tu me dis. Et pas seulement lorsque cela me plaît, mais même lorsque cela me dérange. C'est là d'ailleurs que vous prouvez vraiment que vous avez une vraie foi, quand cette foi vous bouleverse, vous transforme, enlève toutes vos fausses convictions, et vous devenez vraiment une nouvelle personne où Jésus, sa parole, son esprit, son message vous pénètre, vous transforme. Alléluia! Là, vous commencez à devenir un vrai chrétien. Il vient à moi, communion, il écoute. C'est écouter en vue d'obéir toujours. C'est pas écouter pour dire qu'est-ce qu'il a de beau à dire aujourd'hui. Si vous êtes venu pour écouter simplement des beaux discours, vous serez déçu. Le verbe écouter dans la Bible, c'est pas du tout écouter des beaux discours. C'est écouter toujours dans le but de mettre en pratique. Dieu va vous parler pendant ces quelques heures entre nous. L'important n'est pas tellement ce que vous avez entendu, mais si vous mettez en pratique ce que vous avez entendu. Êtes-vous décidé à cela? Le sage, c'est cela. Voilà le sage. Mais l'insensé, j'ai écouté, c'était beau. Ah, magnifique, c'est bien. Mais rien du tout. Pas de décision. On prend la décision de ne pas se décider. Ah, il y en a qui prennent des décisions, mais la décision de ne jamais rien décider. Ça, c'est un insensé qui est comme ça. Et Jésus a dit... Le sage, c'est celui qui écoute, qui vient à moi, qui écoute et qui met en pratique. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Les domaines dans la parole qui te dérangent, est-ce que tu es prêt à les mettre en pratique? Ou est-ce que tu dis, ça c'est pas pour moi, c'est pour ma femme, c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour moi. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Et sa ruine a été grande et que de vies sont en ruine uniquement parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Me voici, Seigneur, je veux faire ta volonté. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Avez-vous remarqué, le Seigneur a des pourquoi à nous donner, à nous dire? Nous, bien souvent, c'est nous qui avons les pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, il y a ceci? Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur vous dit, mais moi, je sais que j'ai des pourquoi. Tes pourquoi seront résolus si tu résous mon pourquoi, moi. Ah bon? Quel est ton pourquoi? Eh bien, mon pourquoi, c'est celui-ci. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur? Et ne fais-tu pas ce que je te dis? Si tu commences à faire ce que je te dis, tes pourquoi disparaîtront. Complètement! Et tu deviendras une personne sage, bâtie sur le roc de la parole de Dieu. Les maisons peuvent s'écrouler autour de toi, mais toi, tu resteras debout. Et les autres verront que tu tiens ferme, parce que tu es taché à cette parole. Et Dieu t'enverra après d'autres personnes. Voyant ta foi, ta fermeté, Dieu pourra dire, va vers l'autre là-bas. Je l'ai déjà éprouvé plusieurs fois. Maintenant, sa foi est fondée en moi. Et dans ma parole, va, il pourra t'aider. Tu as été déçu de l'un, de l'autre, mais va. Tu vas apprendre des leçons capitales. Et la leçon capitale est celle-ci. Il faut s'attacher au Seigneur et à sa parole.
Amen.
Et mettre en pratique sa parole. Amen.
Amen.
C'est tout simple ce que je vous dis, mes amis. Mais grande a été la ruine de cette maison. Et combien de vies chrétiennes sont en ruine. Pas seulement des vies même dans le monde, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le Seigneur. Mais que de vies chrétiennes sont aussi en ruine. Juste encore quelques mots maintenant concernant l'enlèvement du Seigneur.
Amen.
Là aussi, il est question d'un événement extraordinaire. C'est dans 1 Corinthiens 15, 51 et 53. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, 51, 52, 53. On peut lire cela. Il est dit, 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » Parlez-moi de soudaineté, parlez-moi d'événements à l'improviste, qui étonne, qui surprend. Voilà un autre événement mondial qui va surprendre l'humanité entière. Car elle, ensuite, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés.
Alléluia.
Voyez-vous ? Là, voilà le troisième événement planétaire qui va se passer un jour. L'enlèvement des vrais chrétiens nés de nouveau.
Gloire à Dieu.
Amen. Imaginez ce qui va se passer lorsque des millions vont être enlevés.
Alléluia.
Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont? Où il est? Où elle est? C'est pas possible. Où ils sont passés? Et vous croyez qu'ils vont dire, ah, oh, c'était des chrétiens, le Seigneur les a enlevés? C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Le diable sera là derrière.
Oui.
Il va dire, ils vont voir, oui. Oh, on remarque un peu, c'était ces chrétiens fanatiques qui étaient là. C'est un peu ces fanatiques qui mettaient le désordre dans ce monde. Qui n'étaient pas des personnes qui favorisent l'unité mondiale, l'unité des religions, l'unité des politiques, tout cela. C'était un peu des extrémistes. Autrement dit, on a été débarrassés. Une fois pour toutes de ces gens-là. Et ils vont prendre ça comme une bonne nouvelle. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que dès que l'enlèvement de l'Église aura lieu, les 7 années de tribulation vont tomber sur ce monde. Un temps de persécution tel qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Un événement planétaire. Encore aujourd'hui, même des chrétiens se moquent de l'enlèvement. Même des chrétiens, des pasteurs. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Depuis le temps, l'apôtre Pierre avait dit aussi, beaucoup disent, où est la promesse de son avènement? Depuis le temps qu'on en parle, il n'y a rien qui se passe. Mais Pierre leur dit, vous avez oublié le déluge? Vous avez oublié le déluge dont on a parlé ? Rappelez-vous ? Vous dites rien ne s'est passé. Voyez-vous comme il mente ? Voyez-vous comme il tremble, comme il tord les Écritures ? La promesse de son avènement, Dieu l'accomplira. Mais pour les chrétiens, il viendra un moment où vous n'y pensez pas. On a lu tout à l'heure. Il viendra un moment où vous n'y pensez pas. Donc, pourquoi cela ? Dieu veut que les choses soient ainsi pour que tu sois prêt chaque jour et que tu persévères jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il arrivera au moment où on n'y pense pas. Ne commence pas à te dire, ah oui, moi je pense que... Il vaut mieux que tu en laisses à ta petite tête. Parce qu'il viendra justement au moment où tu n'y penses pas. Un jour, j'avais lu ce petit témoignage dans un livre. C'était quelqu'un qui posait une question à un pasteur, je crois, qui posait des questions à des chrétiens. Il a dit, pensez-vous que le Seigneur peut venir... ce soir? Oui, c'est ça, c'était un peu comme ça. Pensez-vous qu'il peut venir ce soir? Tous les chrétiens, le chrétien plus les autres. Non, on ne pense pas. Eh bien, le prédicateur leur a dit, eh bien, rappelez-vous d'une chose, il viendra au moment où vous n'y pensez pas. Ah non, je ne pense pas qu'il vienne ce soir. Voilà le piège. Je pense pas. Avec les événements, avec ceci et cela. D'où l'enlèvement se fera sans avertissement. C'est pourquoi vous devez être prêt maintenant. Si tu n'es pas prêt maintenant, tu es en danger. Oui. Tu es en danger. Mm-hmm. Très grand danger. Et vous savez, tous ceux qui ne croient pas à l'enlèvement, eh bien, ils se disent, puisque le Seigneur ne vient pas maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Dans le passage qu'on a lu, il est dit que du mauvais serviteur qui commence un peu à battre les autres, et à manger, et à s'amuser. Ceux qui ne croient pas en l'enlèvement du Seigneur, qui peut venir à tout instant, justifie facilement leur vie de péché, puisqu'il ne vient pas tout de suite, on a le temps. On peut encore s'amuser un petit peu. Le péché n'est pas si grave que ça. Et on tombe dans la mondanité, dans le péché. Et Dieu n'a jamais voulu cela. Le Seigneur veut que par cette pensée, il viendra au moment où vous n'y pensez pas. Il l'a fait volontairement pour nous pousser à être vigilants d'une manière permanente et de persévérer jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et c'est un stimulant pour nous permettre de rester toujours bien près du Seigneur.
Amen, amen.
Pensez-vous qu'il va venir, qu'il peut venir maintenant?
Oui.
Ah, si vous dites je ne pense pas, ah, dangereux. Là, tu viens de dire quelque chose de très dangereux, qui peut un jour être ta perte. Mais si tu dis, oui, je crois qu'il peut venir maintenant. Si tu dis cela, ça veut dire déjà dans ton cœur, tu as une conviction, tu t'es préparé. Tu sais que s'il vient maintenant, il faut que tu sois prêt. L'apôtre Jean a dit, quiconque a cette espérance du retour se purifie lui-même comme lui-même est pur. Alléluia.
Amen.
L'enlèvement est un stimulant extraordinaire pour le chrétien de se purifier dans l'attente de ce retour. Et si Jésus revient après lui le jugement, alors l'enlèvement est un stimulant pour témoigner aussi et dire attention, si tu ne pars pas avec nous, c'est le jugement qui vient. Et je lisais cette pensée. Les hommes qui ne veulent pas, ou le monde, les hommes qui ne veulent pas être dirigés, gouvernés par Jésus-Christ, seront dirigés par des tyrans. Ne l'oubliez pas. Les hommes, les femmes, qui ne veulent pas être gouvernés par Jésus-Christ, seront dirigés par des tyrans. Et le tyran par excellence sera l'Antichrist. Tu ne veux pas de Jésus maintenant ? Mais comme jugement, tu devras servir l'Antichrist. Un tyran qui n'a pas vu le bon berger, eh bien tu auras le loup qui te détruira en un clin d'œil, en un instant. Alléluia. J'en ai un quatrième, parce que j'avais quatre messages, j'avais un titre à mon message, je ne vous l'ai pas dit, je vous le donne à la fin là. Quatre messages divins en temps de crise mondiale. Quatre messages divins en temps de crise mondiale. Et la dernière, 1 Thessaloniciens 5, 2, 10. Et je termine. 1 Thessaloniciens 5, 2, 10. Vous allez remarquer que là aussi, il y a une question de soudaineté. Car vous savez vous-même, par 1 Thessaloniciens 5, verset 1 et verset quoi, 2 et 3. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Quand les hommes diront paix et... sursauter et souligner, qu'est-ce qu'il est dit après ? C'est alors que, soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Parlez-moi d'événements surprises mondiales. Eh bien, il est là. À un moment donné, les nations qui ne veulent pas de Dieu et qui se vanteront d'apporter la paix dans ce monde sans Jésus, sans Dieu, à un moment donné, cette coupe de la rébellion sera tellement remplie qu'au moment où ils refuseront totalement le règne de Dieu et de se soumettre à ce Dieu, et qu'ils diront, nous n'avons pas besoin de lui, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. À ce moment-là, une ruine soudaine, au moment où ils diront paix sur terre, enfin on a la paix. Ils veulent la paix sans le prince de la paix, ça ne marchera jamais. Tu veux la paix dans ta vie, sans le prince de la paix, ça ne marchera jamais. Tu tournes le dos au prince de la paix, et tu veux la paix? C'est un mensonge. Tu es un insensé. Tu cours devant de ta perte. Quand ils diront paix sur terre, comme pour dire, enfin voilà, on n'a pas besoin de votre Dieu. De votre Jésus, on n'en a pas besoin. Vous voyez que ça marche. Et le Seigneur permet que pendant quelques temps, ça marche un tout petit peu. Pour qu'ils se réjouissent, voilà, en train de se saluer un petit peu. Aïe, 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 merveilleux, t'as vu maintenant, c'est la paix, on a signé. Hein? Et c'est tout cela qui va introduire la grande tribulation. Ah, merveilleux! Alors Jésus, c'est zéro! Nous, on va réussir quelque chose! Alors ils sont en train de se saluer, au moment où ils sont en train de se congratuler, se saluer, se faire des embrassades, enfin, ça y est! C'est là, le ciel, l'âge d'or est là, l'âge d'or, paix et sécurité, au moment où ils sont en train de se vanter, Dieu rit dans le ciel, et à ce moment-là, il intervient du ciel, et une ruine soudaine, les fondra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte au moment où ils se réjouissent. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'as tout calculé sans Dieu. Mais n'oublie pas que ce Dieu est un monde moral, un univers moral. Il y a un Dieu qui règne.
Oui.
Vous rejetez celui-là, mais il règne. Et il règnera. Ah bon? Tu étais bien en train de t'amuser, d'applaudir l'un à l'autre. Terminé. Qui rira bien, rira le dernier. Que Dieu nous fasse la grâce, soudainement. Et ils furent tous détruits. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu, vous êtes d'accord avec moi?
Non.
On ne se moque pas de Dieu. Non. Tu fais partie de la majorité, fais bien attention. Fais bien attention. Te croyant en sécurité là. La sécurité est auprès du Seigneur. Amen. Auprès du Seigneur, de sa parole, et dans la mise en pratique de cette parole. Ne venez pas dire, ah oui, mais je sais tout ça, je sais. Non, c'est pas suffisant. Je sais et je vis cette parole. Je veux tout faire pour la mettre en pratique. Là, tu es sage. Et ta maison résistera. Quand la tempête viendra, quand l'adversité fondra. Car il y aura encore des temps difficiles pour les chrétiens. Et beaucoup succomberont. Beaucoup deviendront lâches, des traîtres. Parce qu'ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour le Seigneur.
Oui.
Une vie facile.
C'est vrai.
Un christianisme sans croix. Que Dieu nous ait pitié de nous. Sans sacrifice, sans obéissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Tous.
Quatre messages divins en temps de crise mondiale. Puissions-nous entendre ce message. Et ne pas faire comme celui du déluge ou les insensés qui avaient leurs petites idées. Mais malgré leurs petites idées, est-ce que Dieu en a tenu compte? Non, c'est venu quand même. C'est pas ce que vous dites qui compte, Dieu veut dire. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous serions très sages. Serrions les paroles de Jésus sur notre cœur, afin que notre maison tienne debout dans les épreuves qui viennent encore, et que nous restions debout lorsque le Fils de l'homme viendra. Que Dieu vous bénisse. Et gardons, serrons cette parole dans notre cœur en la mettant en pratique. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité.
Alléluia, Seigneur.
Nous voulons la serrer dans notre cœur.
Amen.
Et ne pas être comme ceux insensés.
Amen.
Et ne pas être comme ceux du déluge qui se faisaient toutes sortes d'idées.
Oui.
Qui les ont conduits à leur perte. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par
Seigneur.
ta vérité. Amen.
Amen, amen.
Restons encore dans le recueillement, quelques instants.
Gloire à ton nom.
C'est vrai que dans ce monde, on se moque de Dieu et on se moque des chrétiens, des vrais chrétiens, je parle. Et on les persécute dans certains pays. On les persécute à mort. Et cet après-midi, je vous parlerai de certaines choses qui se passent aujourd'hui sur notre planète. Mais n'oublions pas que si les hommes se moquent de Dieu et des chrétiens comme ils l'ont fait du temps de Noé, c'est lui qui aura le dernier mot.
Amen.
Ces gens-là peuvent se moquer encore longtemps. Mais lui, il se rit de ces moqueurs-là. Dieu se rit, il a dit, la parole de Dieu dit qu'il rit de ces gens-là. Parce que c'est tellement de pauvres gens qui meurent comme tout le monde. Leur vie ne leur appartient pas, pas plus qu'à nous. J'ai juste deux petites paroles d'encouragement pour la marche avec le Seigneur, pour deux jeunes convertis au milieu de nous. Tu es jeune converti, tu viens de te convertir il n'y a pas bien longtemps. Eh bien, le Seigneur te voit, il connaît tes combats, tes luttes, et il te dit, mon enfant, tu es mon enfant, lorsque tu ne ressens pas ma présence, je suis quand même là près de toi, et je te soutiens de ma droite triomphante. Comme j'ai conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, pas après pas, jour après jour, mois après mois, année après année, pendant 40 ans, je conduis, moi, ton Seigneur, ton berger, les pas de ta vie que tu m'as remise. Je te soutiens par mon bras puissant, ne crains point de marcher avec moi, et je te tire et t'attire toujours plus près de moi, avec mes cordages d'amour. Près de moi, tu n'as rien à craindre, te dit le Seigneur. Tu seras en sécurité. Reste bien ta faible main dans ma forte main, et je te conduirai à bon port.
Amen.
Une autre parole également pour quelqu'un de jeune dans la foi qui est ici présent. Le Seigneur te dit, comme un père et une mère apprennent à leur enfant à marcher, je t'enseigne moi aussi à marcher dans mes voies. Je te tends mes bras. Quand tu as tendance à tomber ou que tu trébuches, je te tends les bras, je t'ai conduit jusqu'à ce jour et ne me lasserai jamais de te voir progresser dans mes voies. Je t'aiderai toujours, même quand tu ne sais plus comment marcher. Je t'aiderai et te soutiendrai encore. Quand ton chemin devient difficile, te dit le Seigneur, je t'aiderai encore et toujours à marcher encore. Même s'il t'arrive de tomber, relève-toi et marche encore. Je te tiens par la main. Ne compte pas sur tes propres forces, mais sur ma force toute puissante. Et tu continueras de progresser dans mes voies, te dit le Seigneur. Le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Nous n'en sommes pas à des stades de foi et de vie chrétienne semblables, à des stades différents, mais le Seigneur a une parole pour chacun de nous. Et il a une grande patience, une grande compassion, un grand amour. Et il ne se lasse pas de nous corriger quand il le faut, de nous instruire, de nous édifier, de nous transformer. Que de travail il accomplit dans le secret de nos vies et de nos cœurs. Soyons, laissons le faire. Et si nous lui remettons notre vie, il saura l'amener jusque dans sa présence divine. Merci Seigneur.
Oui, merci.
De ce que tu nous parles aujourd'hui, de ce que ta présence est là.
Béni sois-tu, Seigneur.
Et de ce que tu n'as pas fini d'agir au milieu de nous.
Amen.
De ce que tu as commencé, tu l'achèveras aussi.
Amen.
Parce que dans ta parole, tu dis
béni sois-tu
aussi, je suis l'alpha et l'oméga.
Amen.
Le commencement et la fin.
Amen.
Et ce que j'ai commencé dans votre vie, laissez-moi l'achever aussi.
Amen.
Nous dit encore le Seigneur.
Oui.
Seigneur, c'est vrai. Ce que tu as commencé dans ma vie, je désire à tout prix et je veux à tout prix que tu l'achèves pour ta gloire, pour ton service, pour ton honneur, afin que je ne sois pas honteuse et confuse le jour où j'entrerai dans ta présence.
Amen.
Sois béni, Seigneur.
Sois
élevé dans nos cœurs. Nous voulons rester dans cette douce présence du Seigneur.
Alléluia.
Pendant le repas aussi, les yeux fixés encore et toujours sur Jésus, le rémunérateur de notre foi.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci, Seigneur.